Tout au long du XXe siècle, les télescopes nous ont livré des images provenant d'au-delà de notre planète, d'au-delà de notre galaxie, nous dévoilant des phénomènes qui dépassent notre imagination. Quant à la question du destin ultime de notre univers, elle reste encore en suspens. L'expansion de l'univers est-elle infinie ?
Un extrait du documentaire « L'expansion de l'univers, justement, est à l'infini » d'Olivier Twinch et Peter Jones, aujourd'hui à la Une de la Science, Héloïse, parce que la question de l'expansion de l'univers fait l'objet d'une publication scientifique très importante.
Oui, Mathieu, une étude américaine revient sur les mesures de la vitesse de cette expansion. L'astrophysicien Adam Riess, le prix Nobel de physique de 2011, et son équipe ont utilisé le télescope spatial Hubble avec des techniques novatrices et d'une très grande précision, et pour eux, pas d'erreur possible. L'univers s'étire vite, plus vite que ce que l'on croyait. L'étude est publiée dans la revue The Astrophysical Journal. David Elbaz est avec nous au téléphone pour revenir sur ces données et nous expliquer ce que ça pourrait bien changer. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au CEA. Alors, rappelez-nous déjà un peu les fondamentaux. Donc, l'univers est en expansion et ça, on le sait depuis un petit moment maintenant.
Oui, oui. Alors d'ailleurs, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, vous savez, Freud, dans son introduction à la psychanalyse, parlait de blessure narcissique pour dire que l'homme, quand il a découvert qu'il n'était pas au centre du monde. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que même la matière dont on est fait, finalement, ne serait que quelques pourcents de ce qui fait l'univers, et c'est un peu ça qui est au cœur de cet article. Donc il faut savoir que déjà en 1912, une astronome américaine qui s'appelle Henrietta Leavitt, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui a découvert une loi qui est fondamentale parce qu'elle nous a permis de mesurer les distances dans l'univers. Elle s'est aperçue qu'il y avait à peu près 1 000 000 d'étoiles dans le grand nuage de Magellan, une galaxie près de nous, qui pulsaient comme des phares avec un rythme qui varie en fonction de leur puissance lumineuse. Ça a permis, cette loi de Leavitt, à Edwin Hubble de mesurer la distance de ce qu'on appelait des nébuleuses dans l'univers et qui se sont révélées être d'autres univers qu'on appelle aujourd'hui des galaxies. Et en 1929, Hubble a publié la fameuse loi de Hubble qui montre que ces galaxies, ces autres mini-univers, s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont éloignées de nous. En clair, l'univers est en expansion depuis 13,8 milliards d'années. À la suite d'une explosion, le fameux Big Bang. Donc c'est cette expansion-là qui est au cœur de cet article.
Donc cette vitesse d'expansion, alors, il ne faut pas l'imaginer comme régulière, elle varie énormément en fonction de l'environnement.
Voilà, alors c'est ça qui est la clé. C'est-à-dire qu'à la fin, on savait que la gravité faisait que les galaxies s'attiraient. À la fin des années 90, deux équipes qui étaient en compétition ont réussi à mesurer l'effet de la gravité qui ralentissait l'expansion de l'univers qui avait été engendrée par le Big Bang. Et puis, ils se sont ensuite aperçus, en 99, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il y a environ 6 milliards d'années, l'expansion s'est mise à accélérer. Et là, c'est vraiment troublant. Imaginez que vous donnez un coup de pied dans un ballon, le ballon monte, redescend, mais avant d'arriver au sol, il repart vers le ciel et il disparaît. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a 6 milliards d'années, l'expansion a repris, un peu comme si le Big Bang reprenait. Et c'est ça qui a troublé toute la communauté scientifique. Voilà.
Alors, ce nouvel article, qu'est-ce qu'il apporte exactement ? Parce que, comme vous disiez, ça fait longtemps qu'on mesure la vitesse d'expansion de l'univers. Qu'est-ce que nous disent les auteurs ?
Alors voilà, donc là, dans ce nouvel article, on est vraiment dans ce qu'on appelle la cosmologie de haute précision, parce que il y a une tension entre ce qui a été mesuré avec deux techniques différentes, c'est-à-dire que la vitesse avec laquelle l'expansion de l'univers se produit n'est pas la même selon que l'on mesure l'univers près de nous ou loin de nous. Et l'univers a une expansion qui a accéléré, qui a ralenti puis accéléré, mais de deux manières complètement différentes. Alors, dans cette étude, ils ont voulu augmenter la précision pour savoir si c'était des incertitudes dans les mesures ou si c'était qu'il fallait complètement revoir notre compréhension de l'univers. Donc, pour ça, ils ont repris le grand nuage de Magellan, 70 étoiles pulsantes qui étaient étudiées par Henrietta Leavitt au début du XXe siècle, mais cette fois avec le télescope spatial Hubble. Et ils ont réussi à améliorer leurs mesures pour avoir un taux d'expansion de l'univers mesuré à 1,9% près. En d'autres termes, aujourd'hui, on est vraiment sûr que le taux qui est mesuré par cette étude est vraiment très 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 finement mesuré.
Alors cette différence, elle est très très importante, cette différence de mesure ?
Alors, la différence qu'il y a entre les deux études est d'environ 9%. En d'autres termes, si vous prenez deux galaxies qui sont éloignées de 3 millions d'années-lumière, bon c'est pas mal, mais oui. Chaque seconde, selon une première étude, elle s'éloigne de 74 km, Ça, c'est l'étude de l'univers lointain. Et puis cette étude-là, qui utilise des explosions d'étoiles pour mesurer, pour arpenter l'univers, celle-ci, qui a été calibrée sur ces étoiles pulsantes, eh bien, voit 67 au lieu de 74. C'est un écart d'à peu près 10%. C'est pas grand-chose, mais la précision des mesures dans les deux cas est telle que la probabilité que la différence vienne d'une incertitude des mesures est de moins de 1 pour 100 000.
Et c'est petit 10%.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que Adam Riess, qui est celui qui vient de faire cette mesure avec son équipe qui a eu le prix Nobel, il a appelé son équipe SHOES, ce qui veut dire chaussures en anglais. Alors, c'est l'acronyme pour dire Supernovae Edge Zero for the Equation of State, mais en d'autres termes, il vient de mettre le pied, vraiment, les pieds dans le plat avec son équipe SHOES, et ça montre aussi que les prix Nobel ne manquent pas d'humour, parce que là, vraiment, il est en train de dire, les gars, il va falloir réviser votre copie parce que ça ne marche pas.
Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Ça voudrait dire que ce qu'on croyait savoir sur l'univers n'est pas vrai, finalement, il n'est pas fait comme on le pensait?
Alors, ça veut dire qu'il est vraiment en train de s'étendre de plus en plus vite, mais le candidat privilégié qu'on a jusqu'à présent, c'est l'énergie du vide quantique. C'est cette énergie qui vient du fait qu'on ne peut jamais dire qu'il y a zéro énergie où que ce soit dans l'univers. Le problème, c'est que si on se base sur ce qu'on connaît du Big Bang, et puis qu'on suppose que c'est une énergie du vide quantique qui est responsable de cette accélération de l'expansion de l'univers, eh bien, on s'attendrait à une accélération qui serait beaucoup plus rapide que celle qu'on voit effectivement. L'univers accélère beaucoup trop vite. Et donc, on se demande si la nature de ce qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite n'est pas autre chose que cette énergie du vide.
Mais ce serait quoi cette autre chose, alors, David Elbaz?
Alors voilà.
Nous sommes suspendus à vos lèvres.
Ouais. C'est ça, c'est une très bonne question. Maintenant, les gens commencent à se poser des questions pour savoir s'il ne faut pas changer la théorie de la relativité générale d'Einstein. Seulement, des preuves arrivent tous les jours.
Qu'elle est très solide.
Cette théorie, bah oui. Qu'elle est très solide. Donc, on se demande si ce n'est pas un effet de la matière noire, par exemple, qui est une autre composante qui pourrait interagir un peu avec la matière classique et puis changer un peu les choses. Et puis, il y a une autre possibilité que moi, j'affectionne particulièrement, c'est le fait que il est possible que, tout à l'heure, j'ai dit, on n'est pas au centre du monde avec Copernic, on s'est rendu compte qu'on n'était pas au centre du monde, et depuis, on se dit qu'on n'occupe pas une place particulière dans l'univers. Mais c'est peut-être faux. En fait, on est peut-être dans une région de l'univers qui est un petit peu différente des autres. Et que finalement, le taux d'expansion de l'univers ne serait pas exactement le même partout. À ce moment-là, la mesure qui a été faite par Adam Riess récemment serait correcte, mais elle ne serait pas représentative de ce qui se passe à l'échelle totale de l'univers. C'est ce que j'ai appelé dans mon bouquin l'illusion du troisième type. C'est un certain type d'illusion qui vient de notre propre point de vue. C'est une possibilité que j'aime bien parce qu'on s'est rendu compte en étudiant les galaxies autour de nous qu'on était effectivement dans une région avec un peu moins de galaxies qu'ailleurs. Donc on serait au centre d'une bulle que les astronomes ont appelée la Hubble Bubble.
La Hubble Bubble. Très bien, ben on aime beaucoup et merci. C'est de la matière à réflexion justement. Votre livre est à la recherche de l'univers invisible, David Elbaz, et il est sorti aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être passé par la Une de la Science et Héloïse, on se retrouve demain.
À demain Mathieu.